VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du lundi 22 août 2016. Au sommaire ce soir...
La destruction des mausolées de Tombouctou au Mali devant la Cour pénale internationale. Le djihadiste malien Ahmad Al-Faki Ahmadi demande pardon.
Tournée africaine de John Kerry à Nairobi, le secrétaire d'État américain plaide pour le déploiement d'une force de protection onusienne composée de troupes africaines au Soudan du Sud.
Raid en Syrie, Téhéran annonce l'arrêt de frappes menées par la Russie depuis l'Iran.
Une délégation américaine se rend demain en Turquie pour discuter du dossier de Fethullah Gulen, l'ex-imam accusé d'implication dans le putsch du 15 juillet.
Ne manquez pas notre segment sur la présidentielle américaine.
Et bien sûr, l'économie et les sports juste après le journal.
Ouverture aujourd'hui du procès du djihadiste malien accusé d'avoir ordonné et participé à la destruction des mausolées classés au patrimoine mondial de l'humanité à Tombouctou. Il a plaidé coupable ce lundi devant la Cour pénale internationale. Les précisions d'Anastasie Tudiech.
Il s'appelle Ahmad Al-Faki Al-Mahdi, né vers 1975. Cet ancien directeur d'école, versé dans le Coran depuis son plus jeune âge, était, selon l'accusation, un membre d'Ansardine, groupe djihadiste lié à Al-Qaïda. Le Touareg est décrit dans la région comme un homme réservé, devenu le shérif de la ville, intransigeant sur les principes et prônant l'application de la charia. En tant que chef de la Hisba, la brigade islamique des mœurs, il aurait ordonné les attaques contre 9 mausolées de Tombouctou entre le 30 juin et le 11 juillet 2012, attaques auxquelles il aurait également participé. Les personnages vénérés enterrés dans les mausolées valent à Tombouctou son surnom de « Cité des 333 saints », qui, selon des experts maliens de l'islam, sont considérés comme les protecteurs de la ville, susceptibles d'être sollicités pour des mariages, pour implorer la pluie ou lutter contre la disette. Ce sont ces rites, contraires à leur vision rigoriste de l'islam, que les djihadistes ont tenté d'éradiquer selon l'accusation. Ahmad Al-Faki Al-Mahdi veut plaider coupable car, selon son avocat, il est un musulman qui croit en la justice. Il veut également demander pardon aux habitants de Tombouctou et au peuple malien.
Réaction en République démocratique du Congo suite à l'annonce de la libération de certains prisonniers politiques et d'opinion. L'opposition pense que les vrais concernés sont absents de la liste publiée par le ministre de la Justice. De Goma, Charlie Kazereka nous en dit plus.
Pour maître Jean-Paul Lumbulumbu, l'avocat de plusieurs de ceux qui leurs noms ont été repris sur cette liste publiée par le ministère de la Justice, pense que ces derniers devraient reconsidérer cette liste et la reprendre, car il y a eu erreur selon lui.
On n'y a pas mis les noms de personnes, de véritables acteurs politiques qui devraient être libérés. Il s'agit de Diomi Ndongala, Jean-Claude Moyambo. Voilà pourquoi nous avons adressé un mémorandum au gouvernement.
Jivin Kombi, militant de la Lucha, avec 9 de ses co-détenus libérés depuis mars dernier et qui leurs noms ont été repris sur la liste des ministères. Pour lui, c'est un étonnement.
C'est vraiment surprenant parce que j'ai été libéré il y a de cela plus ou moins 5 mois. Ça signifie simplement que le ministère de la Justice n'a aucun contrôle sur la situation carcérale de la République démocratique du Congo et ça inquiète.
Pour répondre à cette inquiétude, le ministère de la Justice a expliqué pour sa part qu'une deuxième liste sera republiée pour y reprendre les noms qui ont été omis. Le Rassemblement, une plateforme qui regroupe plusieurs partis politiques de l'opposition en RDC, appelle la population congolaise à observer une journée ville morte ce mardi 23 août. Charlie Kasereka depuis Goma pour VOA Afrique.
Bientôt, une force de protection onusienne au Soudan du Sud. Le secrétaire d'État américain John Kerry était ce lundi à Nairobi pour insister sur la nécessité de son déploiement. Cette force, Bagassikoura, composée de troupes africaines, sera basée à Djouba.
La capitale du Soudan du Sud a été en effet le théâtre de violents combats en juillet dernier. Et ce lundi, John Kerry a rencontré à Nairobi 5 ministres des Affaires étrangères d'Afrique de l'Est au sujet de son déploiement. Cette force de protection de l'ONU doit comprendre 4000 hommes. Pour John Kerry, cette force vient en complément de la souveraineté et des efforts du Soudan du Sud.
This force is not an intervention force.
Il ne choisit pas d'une force d'intervention. Elle va protéger les civils, protéger les entrées et les sorties de Djouba. Et de permettre une libre circulation des personnes responsables de la mise en œuvre des accords de paix sans peur ni interférence.
La création de la force a été votée le 12 août dernier par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Le président sud-soudanais Salva Kiir et son nouveau vice-président Tabade Ndiaye ont fait part de leur refus total, puis plus récemment de leur réticence au sujet du déploiement annoncé de ces nouveaux casques bleus.
La Tunisie, le gouvernement annonce un vote de confiance au gouvernement issu du parti au pouvoir Nida Tounes. Le vote est prévu vendredi. Le nouveau Premier ministre Youssef Chahed, désigné le 3 août par le président de la République Beji Caïb Essebsi, présentera devant les députés son programme avant des discussions sur son cabinet.
En revanche, en Libye, le Parlement a refusé aujourd'hui d'accorder sa confiance au gouvernement d'union nationale. C'est ce que rapporte un porte-parole de cette assemblée basée dans l'est du pays et proche d'une autorité rivale au GNA, c'est-à-dire le gouvernement d'union nationale en Libye.
Lutte contre le djihadisme, un Marocain soupçonné d'être lié à Al-Qaïda au Maghreb islamique a été arrêté en Martinique, d'après la direction générale de la gendarmerie française. Rachid Rafa était recherché depuis près d'un mois pour avoir violé son assignation à résidence dans cette île française des Antilles. Et selon les autorités, il se cachait dans les bois.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Une délégation officielle américaine s'entretiendra demain et mercredi avec les autorités turques dans le cadre de l'enquête sur l'ex-imam Fethullah Gulen, accusé par Ankara d'être derrière le putsch manqué du 15 juillet. C'est du moins ce qu'indique l'AFP, citant une source diplomatique turque. Une équipe du ministère turc de la Justice devrait également venir aux États-Unis après les entretiens de cette semaine. Le richissime Fethullah Gulen, âgé de 75 ans et exilé volontaire aux États-Unis, a nié fermement toute implication dans le coup de force.
L'aviation et les chars israéliens ont bombardé des dizaines de cibles dans la bande de Gaza, faisant 4 blessés en réponse à un tir de roquette de l'enclave palestinienne sur le sud d'Israël. C'est ce qu'ont indiqué des responsables cités par l'AFP. Ces frappes ont suscité une vive condamnation de la part de la Turquie, qui les a jugées disproportionnées et inacceptables malgré un récent accord avec Israël pour une normalisation des relations entre les deux pays. Le calme est revenu depuis ce matin, apprend-on de même source.
Au moins 6 civils ont été tués ce lundi dans l'explosion d'une bombe posée par le groupe État islamique dans la région de Hawija, à environ 220 km au nord de Bagdad, selon des responsables de sécurité. L'explosion est survenue alors que des familles, parmi lesquelles des femmes et des enfants, tentaient de fuir des zones au sud-ouest de Kirkuk pour atteindre les positions des Peshmerga, a déclaré un officier kurde. L'AFP a confirmé l'information auprès d'autres responsables locaux. Les djihadistes ont disséminé de nombreuses bombes dans la région pour empêcher tout mouvement des forces gouvernementales qui tentent de reprendre les zones tombées sous le contrôle de Daesh.
L'Iran a annoncé ce matin l'arrêt, pour le moment, des raids menés par la Russie en Syrie à partir d'une de ses bases aériennes. Cette annonce est intervenue après des critiques du ministre iranien de la Défense contre l'allié russe. Le point avec Nani Talani.
Dans une interview télévisée hier, le ministre Hossein Degan a critiqué Moscou pour avoir annoncé publiquement son utilisation d'une base en Iran en vue de mener des frappes en Syrie où il aide le régime dans sa guerre contre les rebelles et les djihadistes. Naturellement, les Russes veulent montrer qu'ils sont une superpuissance et un pays influent, mais derrière l'annonce des raids à partir de l'Iran, il y a une volonté de se mettre en avant sans égard pour l'Iran, a-t-il dit. Aujourd'hui, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Bahram Ghassemi, a expliqué que les raids survenus la semaine dernière faisaient partie d'une mission précise et autorisée et elle est maintenant terminée. Les Russes ont mené ces raids et ils sont partis, a-t-il dit. Par ailleurs, il a notifié que d'autres missions similaires russes pourraient se faire, mais elles dépendraient de la situation dans la région et nécessiteraient leur autorisation. L'Iran et la Russie sont les principaux alliés du régime syrien de Bachar al-Assad dans la guerre civile qui ravage son pays depuis plus de 5 ans.
Et parlant justement de la Syrie, le chef des opérations humanitaires de l'ONU, Stephen O'Brien, a fait part ce lundi au Conseil de sécurité de sa colère devant la situation à Alep, qui risque selon lui de provoquer une catastrophe humanitaire sans précédent depuis le début de la guerre en Syrie. Il a exhorté une nouvelle fois tous les belligérants à appliquer un cessez-le-feu ou au moins une pause de 48 heures dans les combats. Il a aussi demandé instamment aux membres du Conseil, et en particulier la Russie et les États-Unis, de se mettre d'accord pour favoriser cette trêve.
Et enfin, politique française, l'ex-président Nicolas Sarkozy a annoncé ce lundi sa candidature à la primaire de la droite pour l'élection présidentielle de 2017. « J'ai décidé d'être candidat. La France exige qu'on lui donne tout », écrit Sarkozy dans un livre à paraître mercredi. Le texte de sa déclaration de candidature a été publié sur Twitter, battu par les socialistes François Hollande en 2012. Nicolas Sarkozy pourrait l'affronter de nouveau. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Eric Manirakiza.
La branche sud-africaine du géant de la métallurgie ArcelorMittal va payer une amende de 100 millions d'euros. Selon la Commission de la concurrence en Afrique du Sud, la compagnie a reconnu son implication dans une entente sur les prix de l'acier et constituait de fait un cartel en contrôlant le marché. L'accord trouvé entre la compagnie et l'autorité de la concurrence prévoit un remboursement sur 5 ans, mais aussi la limitation des marges de la compagnie sur la vente d'acier au pays pour la même période. C'est la plus importante amende jamais imposée par l'autorité de la concurrence à une seule entreprise en Afrique du Sud. Les taux de croissance supérieurs à 10% qu'affichait la Zambie dans les années 2000 appartiennent bel et bien au passé. Le pays traîne comme un boulet son ultra-dépendance au cuivre, dont elle est le deuxième producteur d'Afrique après la RDC voisine. Depuis 2011, ce métal a perdu plus d'un tiers de sa valeur, entraînant la Zambie dans sa dégringolade. Ceci a provoqué la dépréciation de la devise zambienne, le kwacha, qui a perdu 80% de sa valeur ces deux dernières années face au dollar, entraînant une forte inflation au-delà de 20%. Volkswagen a été contraint d'interrompre une partie de sa production et à réduire le temps de travail de près de 28 000 de ses salariés en Allemagne. En effet, le constructeur est confronté à un arrêt de la livraison de deux sous-traitants. Six usines allemandes, dont le siège du constructeur à Wolfsburg, où est fabriquée la Golf, sont concernées. Le géant allemand aux 12 marques, Audi, Porsche, Scania, etc., emploie plus de 600 000 personnes dans le monde.
Plein feu sur les stades, les sports avec Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgan.
JO 2016, c'est fini et l'Afrique a brillé sur ses Olympiades d'été.
Avec 45 médailles gagnées, l'Afrique a d'ores et déjà battu son record établi aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008. L'Afrique a remporté sur ces JO 10 médailles d'or. Les trois principales nations olympiques africaines sont le Kenya, l'Afrique du Sud et l'Éthiopie. Les Kenyans sont ainsi à l'origine de près de 30% des médailles et surtout de 6 titres olympiques sur 10.
Football, deuxième tour des éliminatoires de la CAN des moins de 17 ans ce week-end et de nombreuses surprises.
Le Burkina Faso qui se qualifie après avoir battu le Ghana 4-1. Ça passe également pour la Côte d'Ivoire qui domine le Bénin 3-1. Qualification également du Niger, du Gabon, le Tchad, forfait, le Mali qui se qualifie donc. L'Égypte qui est battue par l'Éthiopie, le Sénégal s'impose devant la Tunisie. On note, Morgan, les matchs allés du troisième tour auront lieu dans un mois. Ils opposeront le Niger au Gabon, le Mali à l'Éthiopie, le Sénégal contre la Guinée, le Soudan face au Cameroun, la Tanzanie face au Congo et l'Angola face aux Comores.
La Sanadiara en Turquie, c'est fait ou presque.
Galatasaray a trouvé un accord avec la Sanadiara pour un contrat de 3 ans, mais sa venue est conditionnée au règlement des 10 millions d'euros d'amende que l'international français de Marseille doit régler au Lokomotiv Moscou. La Sanadiara, 31 ans, avait signé en 2013 un contrat de 4 ans avec le Lokomotiv Moscou avant de quitter le club un an plus tard en raison notamment d'une baisse de salaire. Le Lokomotiv avait porté plainte auprès de la FIFA qui lui avait donné raison et la FIFA avait infligé une amende de 10 millions d'euros à la Sanadiara avec une interdiction de s'engager dans un autre club pendant 15 mois.
Et enfin, le Tour d'Espagne en cyclisme.
Le Français Alexandre Genier s'est imposé en solitaire en Galice à l'issue de la troisième étape de la Vuelta qui a vu Alberto Contador concéder du temps sur les autres favoris à la victoire finale.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes toujours à l'écoute de VOA Afrique, Morgane Guériec et Chérubin Gaby Dorcy. Dans votre compagnie, place au dossier du jour, première escale, le Burundi.
Un mois après la disparition du journaliste Jean Bigirimana, ses confrères de l'organe de presse Iwachu s'organisent pour montrer leur détermination à faire la lumière sur cette disparition. Arzuma Compaoré a joint à Bujumbura Agnès Ndirubusa, journaliste à Iwachu et collègue de Jean Bigirimana.
Il a disparu aux alentours de Bugarama, c'est à Muramvya, quelques kilomètres de Bujumbura, la capitale. Et nous sommes vraiment dévastés par son enlèvement, par sa disparition, parce que là, on ne sait même pas où il est actuellement. Et ça nous attriste de ne pas être aux nouvelles, quoi.
Comment est-ce que la presse burundaise réagit par rapport à ça?
Bon, la presse burundaise, c'est vrai, elle est attristée, elle est peureuse. 2015, il y a eu plusieurs radios qui ont été fermées, certaines d'entre elles incendiées. On s'attendait à ce que le journaliste ait ses droits et n'ait pas à avoir peur. Mais avec cet enlèvement de Jean Bigirimana, nous sommes dans l'inquiétude, quoi.
Et au niveau de Iwachu, qu'est-ce qui est fait?
Le groupe de presse Iwachu a bien travaillé parce que là, on a débuté nos enquêtes depuis la disparition de Jean Bigirimana. On a même découvert deux cadavres à la rivière Mubarazi. C'est tout proche de l'endroit où a eu lieu la disparition de Jean. Heureusement ou malheureusement, voilà, Jean n'était pas parmi ces deux cadavres. Heureusement pour nous, parce que là, ça nous conforte dans l'espoir de revoir Jean, quoi. Pour cette semaine aussi, le groupe de presse Iwachu a organisé une semaine dédiée en hommage à Jean et plusieurs activités sont menées, notamment le blackout dans le site d'Iwachu. Il y aura des discours à prononcer et bien évidemment d'autres cérémonies pour éclairer aussi l'opinion sur la disparition.
Vous êtes une collègue et amie de Jean Bigirimana. Aujourd'hui, les journalistes sont toujours en danger.
Je suis très inquiète aussi. Voilà, que ce ne soit pas même des journalistes, voilà, qu'il y ait des gens qui disparaissent comme ça, c'est affreux. Et c'est à se demander, voilà, qu'est-ce qui va nous arriver à nous, hein, nous qui sommes là. Et on se dit, bon, ces gens aujourd'hui, peut-être nous demain, voilà, on essaie de vivre avec, on essaie de faire notre travail, mais voilà.
C'était Agnès Ndirubusa, journaliste à Iwachu et collègue de Jean Bigirimana, jointe à Bujumbura par Arzuma Compaoré.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Dans les milieux de la drogue au Burkina Faso, les jeunes qui consomment le tramadol comme remontant ignorent trop souvent les conséquences de ce psychotrope sur leur santé. De Ouagadougou, la correspondance de Zoumana Wanogo.
Le Burkina Faso, de par sa situation géographique, est un pays de transit de la drogue. Malheureusement, celle-ci ne fait pas que transiter, nous a dit Mme Mariam Diallo-Zoromé, secrétaire permanent du CNLD, Comité national de lutte contre la drogue. Suivant avec elle le glossaire des drogues au Faso.
On remarque qu'en plus de tramadol, nous avons des produits qu'on appelle missiles. Ce sont des produits pharmaceutiques dont sur les fourreaux, on voit une vieille personne en train de jouer au ballon. Nous avons aussi des aspirines où nous voyons l'éléphant dessus. Et malheureusement, ces populations ne savent même pas que cela, c'est de la drogue.
À côté des problèmes de santé, la nouvelle tendance qu'est le tramadol pose aussi des problèmes de société. Issouf Belem, attaché de santé mentale, explique.
Et il faut le dire, il ne faut pas se le cacher, le tramadol est une drogue largement utilisée dans nos écoles. Les élèves se disent qu'en consommant le tramadol, cela ouvre l'esprit. Malheureusement, les conséquences sont multiples quand vous êtes coupé de la réalité. Mais il y a aussi les braquages que nous constatons sur les routes. Vous comprenez que lorsque vous êtes sous l'emprise d'une drogue, vous n'avez perdu rien. Vous êtes le roi du monde.
La consommation du tramadol est une réalité au Faso. Mais quel consommateur va avouer? Nous avons essayé avec Zakaria Wanga, jeune menuisier.
Je n'ai jamais pris ça, mais j'ai entendu parler. Quand tu prends ça, que ça remonte. Tu travailles fort, mais à un certain moment maintenant, si ça te laisse, tu deviens vraiment un peu bizarre, quoi.
Puis, avec Rasmane Zongo, lui, il est mécanicien.
Moi, j'ai entendu que quand tu es faible, tu prends tramadol, ça te remonte pour que tu vas bien travailler. Moi, je n'ai pas essayé même pour savoir comment ça fait.
Finalement, c'est Sayuba Ouedraogo qui a osé franchir le Rubicon. Voici son histoire.
C'est mon petit frère qui a amené deux comprimés. Quand je n'ai qu'à prendre ça. Ah, quand j'ai pris ça, mon visage, tout s'est changé, j'ai vomi beaucoup. Alors qu'il m'a dit, quand j'ai pris ça, mon palis, ça va partir. Ou la fatigue, tout, ça va partir. Et c'est un mauvais médicament. Ça ne remonte pas de... Donc, ça a été très difficile pour moi.
Zoumana Wounougou, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Le roi du Maroc, Mohamed VI, a invité les 5 millions de Marocains vivant en Europe et dans le reste du monde à rester attachés aux valeurs de leur religion et à leurs traditions séculaires. Face au phénomène du fanatisme, Morgane.
S'exprimant dans un discours à la Nation samedi, il a appelé à un front commun pour contrecarrer l'extrémisme. Salwa Jafari.
Face à la prolifération de l'obscurantisme au nom de la religion, tous, musulmans, chrétiens, juifs, devons construire un front uni pour entraver le fanatisme, la haine et le repli sur soi, sous toutes ses formes.
C'est la première fois que le roi Mohamed VI s'adresse aux 5 millions de Marocains vivant à l'étranger, après les récentes attaques terroristes qui ont frappé l'Europe.
Nous sommes tous visés. Ceux qui croient en ce que je dis sont une cible potentielle pour le terrorisme qui a déjà frappé le Maroc, puis l'Europe et de nombreux pays à travers le monde.
À quel point le message du souverain va-t-il résonner auprès des Marocains du monde? On a posé la question à Mustapha Tossa, politologue marocain.
Je crois que le roi du Maroc mise sur le fait qu'il y avait un vide au niveau de la référence religieuse pour un certain nombre d'actes. De nombreux jeunes se sont inscrits dans des projets terroristes, croyant s'inspirer ou croyant réaliser un dessin religieux. Et il n'y avait jusqu'à présent personne pour leur dire que ce qu'ils étaient en train de faire était contraire à l'esprit de la religion elle-même. Le suicide est interdit. Le djihad est très réglementé et on ne peut pas, du jour au lendemain, s'improviser comme un djihadiste ou comme quelqu'un qui mène une action violente au nom de la religion.
Najim Lachraoui, les frères Bakraoui, les frères Abdeslam, le Maroc se fait pourtant le chantre d'un islam tolérant et modéré.
En fait, il ne faut pas tomber victime d'une sorte d'effet de loupe. C'est vrai qu'il y a beaucoup de Marocains chez Daesh, il y a aussi beaucoup de Tunisiens, il y a aussi beaucoup de Libyens. Ça ne veut pas dire que le Marocain est plus radical qu'une autre nationalité. La radicalité ou le recours au terrorisme n'est pas le monopole d'une nationalité. C'est uniquement une question de nombre. De nombre, parce que la communauté marocaine est effectivement dominante dans un certain nombre de secteurs en France et en Belgique. Quand on voit un certain nombre de Maghrébins qui appartiennent et qui font, entre guillemets, le déplacement pour aller s'inscrire dans la logique violente d'organisations terroristes comme Daesh et Al-Qaïda, ça nous interpelle sur les motivations, sur les circonstances sociales, politiques, idéologiques, religieuses qui sont à l'œuvre pour pousser ces gens-là à aller dans ces combats djihadistes et terroristes.
Voilà, c'était Mustapha Tossa, politologue marocain.
présidentielle américaine 2016, le candidat républicain Donald Trump tente de recentrer sa campagne, mais d'autres sujets continuent de s'inviter dans le débat, comme celle de sa fortune qui ne serait pas aussi importante qu'il le dit. Son adversaire démocrate Hillary Clinton, quant à elle, est toujours emmêlée dans la controverse de ses emails au département d'État. Timothée Dunangmai, on fait le point.
En mai dernier, le magazine Forbes a évalué la fortune du candidat républicain à 4,5 milliards de dollars. Donald Trump a lui-même souvent affirmé par le passé que son conglomérat vaut autour de 10 milliards de dollars. Toutefois, le New York Times a rapporté samedi que les compagnies de l'Empire Trump ont accumulé une dette se chiffrant à au moins 650 millions de dollars. Pour Donald Trump, c'est une très petite dette par rapport à ce que valent l'ensemble de ses entreprises. Mais pour certains analystes, cette dette entame la crédibilité de Trump en matière de gestion des finances nationales. D'autres estiment que si le candidat républicain refuse jusqu'ici de publier sa feuille d'impôt, c'est qu'il ne tient pas à révéler certains aspects de ses finances.
Du côté de la candidate démocrate Hillary Clinton, Timothée, la controverse liée à son utilisation d'un serveur privé du temps où elle était secrétaire d'État semble persister. Il faut dire que l'ancien secrétaire d'État Colin Powell, dont le nom revient de temps à autre dans cette affaire, a tenu à faire une mise au point. De quoi s'agit-il exactement?
Selon le quotidien New York Times, Mme Clinton a déclaré aux enquêteurs du FBI, la police fédérale, qu'au cours d'un dîner, Colin Powell, secrétaire d'État de 2001 à 2005, lui avait conseillé d'utiliser son email et son ordinateur privé pour des courriels non classés secrets. Selon toujours le quotidien new-yorkais, qui cite un livre à paraître du journaliste Joe Conason, cette conversation a eu lieu peu après l'arrivée d'Hillary Clinton au département d'État. Colin Powell est récemment sorti de son mutisme sur la question, déclarant au magazine People que Mme Clinton avait des habitudes bien établies en matière de courriel, même s'il lui a envoyé un message dans ce sens. Ces gens tentent de m'imputer la responsabilité de cette affaire, mais la vérité est qu'elle utilisait un serveur privé depuis plus d'un an lorsque je lui ai envoyé un mémo lui disant ce que j'avais fait, a déclaré M. Powell à People. Colin Powell et Condoleezza Rice, qui l'a remplacé au département d'État, ont certes utilisé des comptes e-mail privés pour recevoir des documents officiels, y compris certains classés secrets. Toutefois, selon une ONG de surveillance du gouvernement, le recours à un serveur privé par Mme Clinton viole les règles du département d'État. Les républicains du Congrès qui ont demandé et obtenu des documents du FBI relatifs à cette affaire n'ont pas encore dit leur dernier mot.
Merci Timothée Dunangmai.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque lundi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Ne ratez pas votre émission interactive. RM Show vous dit Peace Africa.
C'est la fin de cette édition. La mise en onde a été assurée par Michel Joseph avec l'assistance de Joe Gill à la console. Présentation Morgane Guiriac et Chérubin Gabi Dorsil.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci d'être à l'écoute de VOA Afrique. Merci à nos près de 1 700 000 fans sur Facebook. On maintient la conversation. Enfin, n'oubliez pas de visiter notre site internet voaafrique.com pour plus d'infos 24 sur 24.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma,
96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.